prochaine, la paroisse de Korach. Et c'est pas bien de terminer une étude sur des sujets pareils. En général, vous savez, quand on lit à la Torah et qu'on arrive à la fin d'un verset par lui, on ajoute deux ou trois versets. Bon, je vous signale, la semaine prochaine, ce sera le dernier cours de la je vous rappelle donc que les activités ont arrêté le lundi 24, et qu'il y aura encore le cours de David Benessa. Moi, je serai déjà plus là. Et les activités reprendront le 1er septembre. En tout cas, c'est quelque chose de particulier, il y aura une permanence pendant les deux mois d'été. Il y aura un répondeur au téléphone, il y aura une permanence. Et alors, je pense qu'on commencera l'année du 1er au 15 septembre par un séminaire sur les fêtes de Tichou. Ensuite, il y a les fêtes de Tichou. Entre Shana et Kippour, il y aura des cours sur la Tchouva. Après, il y aura la mise au Fida au Shana Rabba. J'espère qu'on pourra la faire. On va passer le Shavuot, comme vous savez. On va pas faire, mais pas comme d'habitude. Et on reprendra le programme avec un nouveau programme l'année prochaine. Et je vous signale que mardi soir prochain, eh bien bon, lundi soir, vous aurez encore cours avec moi le collègue de premier vote, ce sera dernier d'année, et puis mardi soir prochain, nous aurons le sikoum du séminaire sur les salines et les théories. J'espère que la plupart des conférenciers qui nous ont parlé pourront venir. C'est pas évident parce que vous connaissez la vie israélienne, il y a toutes les choses à la fois. Si tous ne viennent pas, j'essaierai de faire remplacer chacun dans la chita où il se trouvait. Peut-être pas pour oublier le même éventail. Et je vous conseille de revenir parce que ça risque d'être intéressant. D'après les prévisions prévisionnelles. Bon, ceci pour dire ce que je voulais vous dire, c'est que comme c'est la fin de l'année, et aujourd'hui et demain, commencer l'étude par une première étude d'introduction, comme l'année dernière, je vous en souviens. On terminera le cours, aujourd'hui et la semaine prochaine, par les questions que vous auriez à me poser, si vous en avez, de tout ce qu'on a appris pendant tout le temps. Dans ce cours-là, ne mélangez pas les cours. Bon, je vais faire une petite introduction sur le problème qui se pose dans la paracha de Korach. Je vais prendre le texte de l'Église. Et une paracha assez longue, mais du point de vue du problème historique que la paracha pose, c'est ce que l'on connaît habituellement en français sous le nom de l'affaire des explorateurs. Et on va reprendre ça. Et je vous demande déjà un ouvrage en particulier qui m'a frappé et qui semble encore une fois faire un clin d'œil sur l'actualité. Et alors je vous rappelle brièvement de quoi il s'agit. Tirach, moi, vous avez une question? Voilà. Et nous avons étudié précédemment de différentes manières, mais je reprends un fil conducteur qui récapitule ce que nous avons vu à ce sujet. C'est que le programme qui était donné pour la sortie d'Égypte, vous l'avez en particulier au début de la paracha de Vaera, dans le livre de Schmitt. Le programme qui est donné pour l'objectif de la sortie d'Égypte, ce sont des choses que je vais rappeler qui sont de l'ordre de l'évidence absolue, mais étant donné la nature de l'histoire d'Israël au niveau de la réalité, et pas seulement de son projet de vérité, c'est qu'on est obligé de les étudier et de les approfondir. Quelque chose qui est un principe qui devrait aller de soi si simplement on se renseignait par information sur ce que dit le récit de la Bible, en particulier ici de la Torah, concernant le projet de la sortie d'Égypte, c'est l'aboutissement de l'aide de traverser rapidement le désert, 11 jours de marche, d'après ce que nous savons des textes, depuis le moment de la sortie d'Égypte à proprement parler. Vous avez aussi dans la paracha de Shalach du livre de Shmot, et c'est rappelé au début du livre de Devarim, Achad Asar Yom, si les choses s'étaient passées idéalement, à partir du moment où le peuple d'Israël, accompagné, je vous le rappelle, du Erevra, c'est-à-dire de tous ceux qui sont sortis d'Égypte, en même temps que les tribus d'Israël, mais qui ne faisaient pas partie des tribus d'Israël, nous en avons parlé il y a quelques cours à peine, j'ai l'occasion d'y revenir, était sorti d'Égypte pour accomplir le projet de la sortie d'Égypte, il serait arrivé en Eretz Israël très rapidement, et encore une fois, la chose aussi, 11 jours de marche, si on avait suivi le chemin de la côte, qui est appelé dans le récit de la Torah, Derech Eretz Pelishti. C'est l'expression qui est employée dans la paracha de Beshalach, dans le livre de Shmuel. Très rapidement, sur ce point, c'est que le pays qu'on appelle à ce moment du texte le pays de Canaan, parce qu'il était occupé par un certain nombre de peuplades, suivant les psaumes, je dirais qu'il y en a 7, 10, 13, suivant que l'on compte, tous les pays de Canaan des deux rives du Jourdain, ou simplement depuis le Jourdain jusqu'à la mer, il y a différents, différentes populations. Suivant, encore une fois, que cela concerne tout Eretz Israël, ou bien simplement la partie d'Eretz Israël qui est du Jourdain jusqu'à la mer. Bon, pour le moment, sans aucune implication sur les problèmes contemporains, alors chaque fois que vous trouverez des versets qui énumèrent ou 7 peuples, ou 10 peuples, ou 13 peuples, finalement ça revient au même, il s'agit des peuplades qui occupaient la terre qu'on appelle jusque-là Eretz Canaan, pour donner bien clair. Pourquoi? Parce que celle des peuplades qui était la plus forte, la plus importante, c'était les Canaanites, les Cananéens. Et alors que cette terre était appelée, au temps des patriarches, Eretz Ha'Ivrim, la terre des Hébreux. En particulier, vous avez un verset très précis dans le livre de Bréchit, lorsque Joseph est convoqué par le pharaon, donc il lui explique ses rêves, et il lui demande qui il est, et Joseph dit, J'ai été volé, c'est pas le mot, c'est un rat. Capturé, du pays des Hébreux. Et d'après le contexte, le pharaon comprend le côté. Si c'est nécessaire d'expliquer plus, si vous avez interrogé tout à l'heure, je reviendrai sur ce point. C'est-à-dire que là encore, il y a un certain nombre de clichés à remettre au point. Cette terre faisait partie. Depuis la distribution des terres aux différentes nations issues de la tour de Babel, donc je remonte un peu loin, cette terre fait partie de l'héritage de Shem, et elle est la terre de la lignée des Hébreux, Eve, c'est un descendant de Shem, et elle a été occupée par toute une série de peuplades, en particulier, c'est pas forcément des Sémites d'ailleurs, et en particulier par le peuple de Canaan, qui est un descendant de Ham. Okay. Pendant ce temps, les Hébreux étaient en exil, en particulier dans la civilisation d'Okazine, d'où Abraham est sorti. Vous vous rappelez que la première fois que le texte nous parle d'Abraham, chapitre 14 de Bereshit, il est appelé Abraham, les premières fois, la première époque, pas la première fois, il est appelé Abraham à Ivri. Vous vous rappelez le plan, mais on l'a étudié en son temps. Est-ce que je peux avoir le premier livre de Bereshit, là-bas, le premier livre? Dans la bibliothèque là-bas, la première bibliothèque, quand tu rentres par la porte. Et, par la fenêtre. Et, je reviens donc sur ce point. Le projet de la sortie d'Égypte était donc de rejoindre le pays d'Israël, mais qui s'appelle à l'époque le pays de Canaan. Parce que, encore une fois, il était occupé par toute une série de peuples, mais dont le principal était Canaan. Donc, cette terre va être appelée Eretz Canaan jusqu'à un certain stade. Nous allons voir qu'elle va recevoir un nouveau nom dans la paracha de Shlach Lecha, nous allons voir tout à l'heure. Et ce que je disais, c'est que si le projet de la sortie d'Égypte avait pu se réaliser directement, immédiatement, un peu il est de façon idéale dans l'ordre du récit, mais on va se heurter aux difficultés de la réalité, alors ça aurait été immédiatement, directement, 11 jours de marche en traversant la côte qu'on appelle Eretz Pelishtim, c'est que les comptoirs dans le pays de Canaan, vous voyez tout ce qui va depuis Gaza, Ashkelon, Ashdod, toute cette bande côtière là, ça s'appelait Eretz Pelishtim, occupé par une peuplade qui n'était pas du tout d'ailleurs ni de Shem, ni de Ham, ni de Yafet. Les Kaftoris, qui faisaient le Kaftor, qui venaient de Kaftor, j'ai cité un ébrage là-dessus, pour ça j'ai demandé de le dire. Et donc, vous savez, une petite parenthèse très rapide, que par la suite, l'histoire à partir de Rome, qui a occupé la Judée à la destruction du deuxième temps, On a donné à ce pays le nom de Palestine, qui est le nom de Eretz Palestine, c'est-à-dire la terre des Philistins. Je referme la parenthèse. Mais son nom biblique, jusqu'à la sortie d'Égypte, c'est Eretz Knaam. La première question que nous allons nous poser, c'est pourquoi ce pays s'appelle Eretz Knaam. La réponse que je viens de donner, c'est parce qu'elle est nommée, c'est une réponse simple, elle est nommée du nom de ses occupants, et en particulier parmi les 7, 10, 13 peuplades qui les occupaient, les Cananéens, qui étaient les plus, disons, la population la plus forte. Et puis voilà qu'il y a eu cette parenthèse de 40 ans dans le désert. C'est-à-dire, dans le premier projet, cette parenthèse n'était pas du tout prévue, et vous pouvez prendre surtout les premiers versets du livre de Devarim. Ahad Asar Yom Mechore. 11 jours pour arriver en Eretz Israël, disons en Eretz Knaam. Et nous savons qu'il y a eu nécessité de cette parenthèse parce que le peuple, tel qu'il se trouvait au moment de la sortie d'Égypte, et je vous rappelle qu'il comportait deux genres de peuples, les descendants des tribus, que la Torah appelle les Bnei Israël, et le Eva, tous ceux qui se sont adjoints avec eux, que la Torah appelle Ha'am, Tam, le peuple. Chaque fois que vous allez dans le contexte, l'expression le peuple, c'est l'indication d'identité, c'est surtout sur le Eva. Chaque fois que vous avez Bnei Israël, c'est les descendants des tribus des Hébreux qui étaient en exil en Égypte depuis la famille de Jacob. Et lorsque vous avez l'expression Ha'am, Bnei Israël, c'est les deux à la fois. Bien. Nous avons eu l'occasion d'ailleurs dans les études précédentes d'avoir différentes illustrations de cette. Différenciation de nomination. Et nous allons donc lire un récit qui va nous montrer que, arrivé au désert, l'attitude du peuple est de mettre fin au programme de la sortie d'Égypte avant la dernière étape, c'est-à-dire l'entrée en Égypte. Ça va jusque là. Alors je reviens jusqu'à sur le premier point de la nomination de cette terre comme Eretz Knaam. Vous en étudiez un midrash sur un verset que je vous ai cité. Ensuite vous lirez un autre midrash sur le début du midrash rabbin et qui montre cette problématique de l'appartenance de cette terre. Qu'est-ce que nous avons comme écran de ce problème? C'est un problème assez mystérieux. Le fait que c'est une terre qui est qui est objet de non seulement de contestation, mais de. Non, je ne vais pas dire combattue, mais objet de réclamation, de la part à des niveaux différents. C'est un problème de dimension tellement énorme qu'il dépasse la raison humaine, à des niveaux différents par l'humanité entière. Chacune se réclamant d'une motivation particulière, parfois plus théologique religieuse, parfois plus politique historique. Et c'est quand même un phénomène tellement massif qu'on finit par s'habituer aux choses les plus énormes et on en voit plus d'énormité. Vous comprenez la première dimension. Et c'est d'autre part une terre dont tout le monde est censé savoir, selon le seul témoignage historique que l'humanité entière a accepté, d'autre part pour des raisons de foi ou de parfoi, qui est censé être la terre promise à Israël. Vous comprenez? Ces deux éléments-là sont différents, mais se rejoignent dans la même perplexité. Ça veut dire, d'une part, il faudrait essayer de comprendre, mais c'est impossible à comprendre complètement sans étudier beaucoup, pourquoi l'humanité entière réclame cette terre. Et encore une fois, par réclamation particulière et spécifique déléguée, à travers la chrétienté, à travers l'islam, à travers tout ce que vous voulez, c'est clair que je dis là. Et puis d'autre part, pourquoi, alors qu'il semble être évident, ce qui sera associé au premier point, que cette terre, c'est la terre du peuple d'Israël. N'importe qui a lu la Bible et connaît l'histoire de cette région, c'est qu'il en est ainsi. Le peuple d'Israël lui-même est en perplexité sur sa propre relation avec cette terre. Et c'est un des épisodes que la Torah nous raconte de début. C'est clair? C'est-à-dire, on est très étonné. Toute cette difficulté de la sortie d'Égypte pour accomplir la promesse du patriarche ne sort d'Égypte que ceux qui sont apparemment sensibles à ça. Et voilà qu'arrivé dans l'étape du désert, eh bien, on va regarder ça un peu dans les détails. Vous voyez donc les deux parties. Et, avant de commencer, je vous prie un enseignement du Maharal, qui se trouve dans le livre de la chaîne, le livre qu'il a consacré à toute cette époque de la sortie d'Égypte, de la traversée au désert et de l'entraînement d'Israël. Et il dit ceci, si c'était la génération de la sortie d'Égypte qui était elle-même entrée en Eretz Israël, il n'y aurait jamais eu de contestation sur le lien entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Ça veut dire que le problème n'est pas fini. Cette première contestation de l'humanité entière sur le lien direct, apparemment évident, qui aurait dû être évident entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël, n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas cette même problématique de perplexité ou de doute dans le peuple d'Israël lui-même. Je reprends la formule du Maharal. Si la génération de la sortie de l'Égypte était elle-même entrée en Eretz Israël, il n'y aurait jamais eu un problème de cet ordre. Un problème auquel on a fini par s'habituer dans la réalité, mais qui au niveau théorique est invraisemblable et incompréhensible. C'est-à-dire, lorsqu'on a un problème aussi massif, on ne peut pas le comprendre au niveau des explications partielles. C'est-à-dire, c'est une question énorme, tellement énorme, qu'on l'a fait éclater en petites parties, et à chacune de ces petites parties, on essaye de donner des problématiques d'explication partielle. Mais tout ce qui n'a fait qu'évacuer la massivité du problème global. J'ai parlé peut-être un peu abstraitement, mais j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Et donc, le Maharal nous oblige à considérer le problème d'abord de l'intérieur. Si c'était la génération de la sortie d'Égypte, et c'était son programme, son projet, après tout, pourquoi les Hébreux sont sortis d'Égypte? Et d'après le texte de la Bible qui en parle, c'est très clair, l'intervention de Dieu pour faire qu'ils puissent sortir d'Égypte, parce que d'Égypte, on ne sortait pas, pour rappeler que c'était le problème là, l'Égypte, c'était la société concentrationnaire de l'Égypte, d'Avadim. Eh bien, c'était bien en vue de accomplir les promesses faites aux patriarches, tout ce qui revient 100 fois dans le verset, de donner à la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et l'identification est faite de façon très précise et très rigoureuse, pas toute la descendance d'Abraham, celle d'Isaac, pas toute la descendance d'Isaac, celle de Jacob, la terre promise aux patriarches. Et voilà qu'on est devant un problème devant lequel il faut réapprendre l'étonnement, réapprendre la surprise. On est tellement familier à cette lecture et à l'événement qu'on ne se rend pas compte du problème que cela pose. Dakka, précisément, cette génération-là, héroïque de la sortie d'Égypte, héroïque, arrive au désert, ne va pas rentrer en Égypte. C'est donc un problème intérieur. Et je reviens encore sur la formule du Maharal, ce problème intérieur est la clé du problème extérieur, qui est incompréhensible, encore une fois, si on n'étudie pas des années. Et qu'est-ce qu'il y a sur cette terre de telle sorte que l'humanité entière la réclame contre toute évidence? Est-ce que vous pouvez faire? Lorsque, par exemple, la chrétienté dit « c'est la terre où s'est révélé leur Messie », c'est une explication seconde, une explication a posteriori. Ça fait que renvoyer le problème à Dieu. Et pourquoi c'est là que ça s'est passé pour eux? Okay. Comprenez-vous? Et lorsque l'islam dit que c'est la terre, l'islam dit deux choses différentes. La descendance d'Ismaël, au niveau ethnique, dit c'est l'héritage d'Abraham, donc notre père, la preuve que c'est écrit dans notre livre, oui, mais dans notre livre, c'est écrit que l'héritage est allé à Isaac, mais oui, c'est l'héritage qui est appelé ça, mais donc on prend une partie, mais pas l'autre. Okay. Et l'islam dit, eh bien, Mahomet a eu un rêve, et il n'était pas du tout agréable. Et vous savez, et il a eu un rêve, et il a vu de la montagne du temple des Hébreux, des Juifs, il s'est dit dans le rêve s'envoler sur une jument ailée, donc ça appartient. Et alors, vous connaissez cette histoire du Coran, hein? Mais j'ai entendu des prêtres dire sérieusement, vous les Juifs, et Mahomet a rêvé, donc il a rêvé à la fête à eux.
C'est pas vrai.
Hein? Non, c'est écrit dans le Coran.
C'est mentionné
dans le même temps.
Non, non, c'est dans le même temps.
En tout cas, c'est ce que dit le livre. En se basant sur ce que dit.
C'est le commentaire.
D'accord. Mais enfin, c'est la raison pour laquelle existe fait accompli. Il y a une mosquée sur la montagne du Temple. Et lorsqu'on parle de Khilil Lachel, on oublie le premier Khilil Lachel. Oh, je reviens à ça. Et ces deux choses-là sont liées. Alors nous allons partir de ce premier point, c'est-à-dire du problème intérieur à Israël lui-même dans sa relation à cette terre. Et je vais poser la première question qu'a posée notre Midrash, c'est pourquoi cette terre est appelée Eretz Kanaan dans le texte. Alors, nous allons voir le verset, le début du verset dans la Sidra, avec d'abord Hachem et Moshe les mots. S'adressa à Moïse en disant il y a intérêt quand même à lire le texte précédent, vous le lisez par vous-même, où nous voyons une mise en doute de promesses préalables, et puis on enchaîne sur la mise en doute de la promesse centrale, de la promesse de la paix. Regardez la chaîne de Moshe les mots, chez l'Aklecha Anachim, envoie pour toi des Anachim. Vous vous rappelez Anachim, une minute. C'est le pluriel de Ish, et chaque fois que l'hébreu de la Torah, de la Tanakh en général, emploie ce mot de Ish, ça ne veut pas dire simplement un homme, dans le sens usuel, habituel du terme, ça veut dire un homme de valeur, une grande personnalité. Vous vous rappelez de cela? Bon, Anachim. Et donc, Dieu dit à Moïse, envoie pour toi, je reviendrai peut-être si c'est nécessaire sur la forme du verbe, Shlach Lecha. Et on va l'expliquer tout de suite. Il aurait suffi de dire Shelah, envoie, que Dieu juge qu'il est nécessaire d'envoyer ce qui sera plus tard dans le texte appelé les explorateurs, le Meraveli. Je reviendrai tout de suite. Mais pourquoi envoie pour toi? Je vous rappelle d'une expression qui ressemble au début de l'histoire d'Abraham, l'Echecha, et là-bas le Midrash explique ce l'Echa sur toi pour ton bien, le Toratra, la Hanatra. Ici, l'explication du Midrash est très différente. Ça veut dire envoie si tu veux, si tu le juges nécessaire. Et si tu envoies, c'est toi qui envoies. Mais je te l'autorise. La responsabilité, c'est toi qui l'auras, c'est pas moi qui te demander d'envoyer, mais c'est pour toi, par toi. C'est un peu la différence. Ça peut être mieux. Anachim, ça veut dire des gens de renom, des gens de valeur, des personnalités, et ça veut dire sur qui tu as, de qui tu as confiance. C'est toi qui le choisiras. Et ensuite, Dieu va aider, en inspirant Moïse, à choisir des chefs de tribu. C'est Anachim là, c'était pas n'importe qui, un représentant par tribu, et des grandes personnalités qui vont être Raché Sanhedrin, c'est-à-dire des gens de grande valeur. Donc on ne sait pas encore les chefs qu'il va y avoir après. Mais il y a toujours Eteret Knaam, et tout le. Il y a toujours, vous avez un mot dans le gros moderne que vous connaissez, Tayarut, hein, ça veut dire qu'il visite le pays, mais ça a le sens de tourisme, mais dans le sens de pour en faire un rapport au peuple, quand il revient. Alors on traduit habituellement qu'ils explorent, mais. Le terme n'est pas le terme hébreu habituel pour dire un explorateur dans le sens de espion, mais un explorateur dans le sens de touriste. Okay. De quoi s'agit-il dans ce projet? C'est la promesse qui a été faite, c'est que c'est une terre qui vaut la peine d'y habiter, Eretz Atova, Eretz Zavat Halavuzvah, et qu'il rapporte au peuple un témoignage d'exploration que la terre est bien comme elle a été promise. On pourrait même se demander pourquoi c'est bon. Bah, c'est qu'on va, c'est vrai. Et ça me fait comprendre pourquoi le Midrash dit Shlach Lecha, c'est que Dieu dit, ne juge pas que c'est nécessaire, mais Moïse a des raisons de le demander, de le décider, Dieu l'autorise. Et comment dire ça autrement? Ça veut dire que déjà, et apparaît la question de tout à l'heure, la question massive, mais pourquoi c'est devenu nécessaire? Est-ce que ça n'est pas de soi que, puisqu'il s'agit de l'accomplissement d'une promesse, eh bien on va jusqu'au bout? Comment dire, est-ce qu'il n'y a pas là, encore une fois, un doute dans la foi? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une épreuve de la sincérité de la foi? Déjà, de la racine, et effectivement, et donc pourquoi? Et donc, c'est pourquoi il faut de nouveau comprendre ce problème. Alors voilà. Il y a toujours Eteret Knaan, le pays de Knaan, à faire alimenter les bénis d'Israël, que je donne aux enfants d'Israël. Regardez bien les termes. Hein. Ce pays, Eteret Knaan, on va expliquer pourquoi il s'appelle Eteret Knaan, d'après le Midrash, c'est tout de suite, que je donne aux enfants d'Israël. Retenez bien cela. L'implication que vous avez déjà sur les lèvres, c'est État ou Erevav. Hein. Bon, mais ça, on va expliquer après. Mais regardez bien la précision du texte. Les bénis d'Israël, pour les bien d'Israël, c'est il n'y a pas de problème. Les pays que je veux nommer Israël, là c'est Had Halak. Les pays d'Israël savent qu'ils sont concernés par lui. Et bon, s'il y a un doute, ce doute vient d'ailleurs. Et après, vous verrez que lorsqu'il y aura cette catastrophe, que les explorateurs eux-mêmes reviendront paniqués de ce qu'ils ont vu, on verra ce que c'est, de quoi il s'agit, alors c'est le terme de Haram, le peuple, qui va être de nouveau employé par le terme. Et voilà quoi j'ai pensé immédiatement en venant dans ça. On est habitué à l'idée que Israël envoie des fusils dans la Gola. Okay? Alors imaginez que les communautés de la Gola envoient des fusils en Israël pour faire un rapport à leur communauté. Est-ce que c'est bien ce pays dont ils s'agit? Vous voyez que quel est le problème? Imaginez le résultat. Et alors, Sirah? C'est le travail que les ordines. Je ne sais pas, les ordines c'est un peu différent. Non, je ne crois pas, les ordines c'est un peu différent. Je me rappelle d'un phénomène qui s'est raconté une année, quand le Rishon LeZion était le rabbi ici, quand on est bracha. Et j'étais une fois un Shabbat à une Kabbalat Panim, une délégation de rabbins de l'étranger, on avait tous les pays, et il y a eu un mini-scandale. Vous savez que c'est l'habitude, le Shabbat, on va faire kiddush chez le Rishon LeZion, chez le. Dans la bain de Ravarachi, de la famille de Faradou. Mais autant de Chazar, le président de l'État, qui est descendant de Chassidim, en fait, ils s'appelaient d'une famille Chassid, de Rabat, c'est un juif très pieux. Et il avait le kiddush ouvert le Shabbat, il y avait des ambassadeurs qui venaient faire le kiddush avec lui, et puis n'importe quel juif qui voulait aller s'asseoir à Chazar. Bon, alors c'était chez Ravani ici. Et alors on était dans la paracha de ça. Et il les a accueillis, la délégation des rabbins d'étrangers, en leur attribuant ce qu'ils viennent de dire. Ah, vous êtes venus comme Tayarim, c'est-à-dire, vous avez tout vous égaré, c'est-à-dire, vous avez une rédine, qu'est-ce que vous allez dire à vos juifs? Il peut y avoir une scandale. Et ils étaient tellement stupéfaits d'entendre ça qu'ils n'ont rien dit. Mais après, le grand rabbin les a bénis quand même. Et puis, le Téretzma a fait rallier une autre éliminée d'Israël. Que je donne aux enfants d'Israël, Ishechad, c'est l'expression habituelle pour dire, comment est-ce qu'on entend plus, Ishechad, un par tribu, le matière au cas, selon la tribu de leur père, puisque la roue, ils enverraient, Aaron, qui participait à cette en voyage, je ne sais pas comment on dit, Kol Nasi Bahem, vous choisirez des princes. C'est-à-dire, c'était des princes de tribu. Alors, je vais isoler l'expression, Veatou, Eteret, Knar. Et nous allons reprendre dans un autre verset qui se trouve au début du chapitre 15. C'est-à-dire le chapitre suivant. Non, le chapitre 15. Là, on est au chapitre 13, mais le chapitre 15. Attendez, j'ai pas un livre, mais. Quelle page ? Page 71. Alors, Vayaber Hachem et Moshe les mots, après toute cette histoire, et c'est-à-dire après que la génération va être condamnée, parce qu'elle a suivi le rapport négatif des explorateurs, et qu'il va montrer que cette génération restera dans le désert, et que c'est leur descendant, leurs enfants qui entreront dans le pays d'Israël, enfin dans le pays qui s'appelle encore pays de Canaan à l'époque, voilà ce que dit le verset. Regardez Rachel et Moshe les mots, et Dieu dit à Moïse, d'abord le béné Israël, parle aux enfants d'Israël. Je crois que c'est important que dans ces textes, il y ait toujours le béné Israël. Si les Aaron qui ont reçu la promesse ne peuvent pas la réaliser, elle sera réalisée, mais par le banni, par le défunt. Bien, Marcel et Réon, tu leur diras, mais littéralement, ça veut dire qu'il dira à leur propos. Il n'y a pas de Marta Lahem, il y avait un Marta Alehem, à leur sujet, à leur coup. Mais ça vient même finalement, en tout cas, lorsque vous viendrez, et les êtes Moshe Rotechem, au pays de vos habitations, littéralement, vous savez qu'est-ce que ça veut dire Moshava, Moshe Rotechem, le pays de vos, le pays où votre issu, c'est-à-dire le pays où enfin vous serez installé, arrivé. Et, etc. Hein? Ça, il faudrait dire de votre petite mais je préfère le mot. Le Nachalou dit, oh, le Machalou Acher, il y a une nuance, mais je préfère le mot de Michou. La racine, enfin l'origine de ce concept, hein, c'est la paracha de Vayeshev. Vayeshev, Yaakov, Beret, Mogoré, Avi. Et Jacob s'installa comme chez lui, dans le pays où ses pères avaient voyagé comme étrangers. Vous vous rappelez, Vayeshev, Yaakov, Beret, Mogoré, Avi. Ça, c'est notre paracha. Et alors ici, ce pays est appelé Beret, Mogoré, Avi. Acherani maintenant la reine que je vous donne. Et là, commence toute une série de prescriptions, de liturgie, de rites, dans le culte du temple. Et voilà ce que le Midrash dit à propos de notre verset là du chapitre 15. D'abord, El Ben Israël, va m'appeler tout à vous et les rêves mon chevet et chevet. Lorsque vous arriverez dans le pays de votre. Comment dire en français, mais peut-être vous comprenez le mot en hébreu. Hein? Non, résidence s'appelle provisoire. Habitation, mais dans le sens de définitif. Voilà à quoi je me réfère, c'est que très souvent, nous-mêmes, la plupart d'entre nous, ceux qui ne sont pas nés en Israël, de notre génération, lorsque nous sommes arrivés pour la première fois en Israël, à Jérusalem, moi j'avais débarqué à Haïfa, mais c'était la même chose. Il fallait, je crois, 6 heures pour arriver de Haïfa à Jérusalem, il n'y avait pas plus d'écrit à l'époque. Et quelqu'un se rappelle de l'ancienne route, l'ancienne ancienne. Et alors, on avait le temps de lire l'Epsom pendant 6 heures. On a eu cette expérience, je suis enfin arrivé, quelque part. Et pour un juif de 2000 ans d'histoire, c'est une expérience extrêmement importante que ceux qui n'ont pas eu, n'ont pas eu, mais enfin que tous devraient avoir. Enfin, je crois que tout le monde a eu. Et alors, c'est beaucoup plus frappant, c'est qu'il n'y a pas de juifs qui vont. Quand ils arrivent dans ce pays, je suis enfin arrivé quelque part. C'est assez mystérieux, on ne peut pas expliquer. C'est des choses de l'ordre de l'expérience, mais enfin l'expérience est telle qu'elle est ce qu'elle est. Et ça veut dire mon chevet est fait. Et voilà ce que dit le Midrash. Amar Rabbi Zakkai, il s'appelle Rabbi Zakkai. Amru Israël, il finit à faire. Voilà ce que Israël dit devant Dieu. Ça veut dire dans la langage du Midrash, pourrait dire devant Dieu. Et bon, maître du monde, le Chol Makom, dans tout endroit de la Torah, attaque au tu appelles ce pays Eretz Knaam, le pays de Knaam. Et Kam, Eretz Moshevotechem, est ici le pays de votre résidence. Quel est le problème? Le problème, c'est que, on pourrait dire, mais la Torah appelle ce pays Eretz Knaam. Par conséquent, nous, Israël, à qui Dieu, à travers cette Torah, nous donne ce pays qui s'appelle Eretz Knaam, nous sommes dans la situation d'être dans un pays qui est Eretz Knaam, mais pas Eretz Israël. C'est un pays qui nous a été donné. Et donc, si le pays s'appelle Eretz Knaam, alors ça expliquerait tous ces problèmes que j'ai rappelés tout à l'heure. La contestation de l'universel humain, ça fait mystère, mais c'est une réalité. Et la perplexité d'Israël lui-même, est-ce que c'est Eretz Israël, est-ce que c'est Eretz Knaam? Et ensuite viendrait tout qui se prétendrait Knaam dire Israël, Knaam. Vous voyez à peu près le problème? C'est-à-dire que ce Midrash va d'emblée dans une question de fond. Bekhon makom atakoveta eret naam, bekan eret moshe boteshel, et dans ce verset, enfin tu nous dis le pays où vous allez vous installer, que vous êtes chez vous. Vous avez compris la différence? Amar laem akadosh, Dieu leur a répondu, hayechet, par votre vie, natati ota le Abraham, je l'ai donné à Abraham. Alors là, je rappelle une analyse qui est très importante. En hébreu, chaque fois que le texte parle de la promesse que Dieu a faite de cette terre, il n'emploie jamais le mot de promesse, mais le mot de donner. C'est pas la terre promise, c'est la terre donnée. Et cette traduction terre promise est indexée à toute une interprétation théologique de nature chrétienne. La terre est promise, elle n'est pas donnée. Alors, ça fait la lecture de traduction. Le texte dit, Asher natati, que j'ai donné, elle est déjà donnée. Bon, il faut l'obtenir, il faut la mériter. Il faut s'y installer, enfin, mon cher Otéchel, c'est ça le mérite de l'obtenir, mais elle est donnée, elle n'est pas promise. Vous comprenez la différence? Si je dis la terre promise, il y a toute une série d'implications. Eh bien, Dieu vous l'a promis. Pourquoi vous la prenez? Attendez qu'il vous la donne. Par exemple, je vais vous donner une exemple. C'est une fois une très jolie traduction de André Chouraki. Vous savez qu'il a fait une traduction de très bonne qualité française de la Bible hébraïque. C'est devenu un très beau poème français d'ailleurs. Vous l'avez d'ailleurs là à la bibliothèque, si vous l'avez consulté. c'est la grande poésie. Alors il avait trouvé l'expression la terre de promission. Très bien. Ça nous fait nous envoler un peu ailleurs que la réalité. C'est la terre que j'ai donnée. La promission, c'est un mot français délicat pour mieux promettre. Prenez un dictionnaire litré. C'est le dictionnaire qu'on se sert le litré. Non, promission avec deux S. Ça va se lire en deux mots. Promission. Alors, je reviens au texte. Et Amala et Matanibaroku, Dieu leur a dit, Hayeshem, par votre vie, Natati et Tal et Abraham, je l'ai donné à Abraham, mais il sera plus à Akov, à Isaac et à Jacob, de Kulam, la Mitra. Et tous, les trois, nous le savons du texte. Vous allez dire, et Dieu renvoie le juif qui parle, pourquoi tu l'appelles avec une âme dans ton texte. Alors Dieu leur répond, prends mon texte et tu verras que je l'ai donné à Abraham, à Isaac et à Jacob, donné, et ça, c'est écrit dans mon texte. C'est le père. Le rabbin, le et c'est le fils qui hérite du père. Le char, Eret, Moshe Rotoshe. C'est pourquoi ici, je vous dis qu'elle s'appelle Eret, Moshe Rotoshe. C'est très important de lire ce midrash à l'aide. Ce don de la terre au père n'est réalisé que quand les fils en héritent. Et que ce que ça veut dire que les fils en héritent, ça veut dire qu'elle devient, qu'ils en fassent, la terre et les jeunes. C'est-à-dire que si les enfants d'Israël, revenus de leur exil, sont vraiment, d'après le sens du terme, mon cher Ekechem, chez eux, dans la terre donnée à leur père, alors, a posteriori, c'est la conclusion que la terre a été donnée à leur père. Sinon, elle s'appelle encore Eretz Kanaan. C'est la première lecture. C'est très clair. De la Mazacha Kanaan, et pourquoi dit le Midrash, Kanaan a mérité, chez Mikre, à Eretz Al-Shmo, que cette terre soit appelée de son nom. Vous allez avoir une réponse inouïe du Midrash. Kivan, chez Shama, chez Israël Baïm, parce que lorsque Kanaan a entendu qu'Israël arrive, Patsa est à Makom, il a fait place nette. Il a bien fait du livre. Patsa, c'est-à-dire qu'il a fait, il a ouvert la place. Il est revenu chez lui. Amara Kazuwaoku, alors lui a dit, Ata Patsita est à Makom, tu as ouvert la porte, tu as fait place nette dans l'endroit, Tikare a arrêté à Shimcha. La terre sera appelée de ton nom. C'est une grâce extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même un privilège de nomination à ceux qui ont été les gardiens de la terre, bien qu'en étant les conquérants, les occupants, pendant qu'Israël n'était pas là. Et qu'est-ce que c'est le migrage? On peut trouver ce migrage que fait les rabbins juifs. Je ne crois pas que c'est un pléonasme. Un pléonasme, mais les juifs sont pas rabbins. C'est à l'envers. Et alors, qu'est-ce que dit le Midrash? Que la Torah a donné cet honneur à Kanaan d'appeler la terre Eretz Kanaan tant qu'elle n'était pas Eretz Moshavot d'Israël. C'est-à-dire, tant qu'Israël n'y est pas, elle s'appellera Eretz Kanaan. Pourquoi? Là, je me base sur les commentateurs du Midrash et après, je vous raconte une expérience personnelle. Que c'est la récompense du fait d'avoir gardé la terre tant que Israël n'y était pas. Et voilà ce que je vous rappelle, je crois que je l'ai raconté une fois, mais je ne sais pas si c'est ici. Il y a 17 ans, j'étais dans une soirée chez le maire de Nathania de l'époque, qui s'appelait Ben Ami. Et qui était à l'époque, il est très très vieux maintenant, je ne sais même pas s'il est encore vivant, Ami Avesri, et un peu plus timide. Et on avait une soirée, et il avait d'ailleurs invité des chefs arabes avaient pu négocier, au temps de sa jeunesse, l'achat de terrain de toute cette bande côtière qui s'appelle Rétrédicine, on va parler tout à l'heure, depuis l'Égypte jusqu'à Naharia là-haut. Tout ça c'était du sable. Et c'était lui que j'ai chargé, par le KKL avant l'État d'Israël même, d'acheter ce terrain-là pour le KKL. Et là nous avons fait cela, il a rappelé ça à ses amis arabes. Et il disait, mais vous savez très bien que c'est du sable. Pourquoi vous nous demandez un prix? Alors que ces amis arabes avaient répondu, nous savons très bien que c'est du sable. Et nous savons très bien d'ailleurs que c'est à vous. Mais vous allez nous payer des centaines d'années si on va la garder tant que vous n'étiez pas là. C'est très intelligent d'ailleurs. Je pense que ça correspond à une vraie réalité. Parce qu'il y a un privilège, et dans le Zohar, si vous voulez, je vous lirai ce texte tout à l'heure, qui me rappellera de te dire oui. Dans le Nouveau Zohar, il y a un texte qui dit que la descendance d'Abraham par Ishmaël a la seule de tous les peuples de la terre le droit d'occuper cette terre quand Israël n'est pas là. Puisque je vous dis quelque chose d'important, je vous citerai la citation du Zohar, vous l'entendiez comment elle est dit. Vous avez compris le problème ? C'est-à-dire, tant qu'Israël n'est pas là, ça me permettra de faire une petite incursion, excursion dans l'Esparim tout à l'heure, pour rappeler. Et ça, je l'étudie dans cette anecdote. C'est-à-dire que, et bien entendu, que c'est notable, certains étaient des Bédouins, mais pas tous d'ailleurs, les Arabes nomades, stables, il y a quand même une différence entre les Bédouins et les Arabes par la descendance d'Ismaël, mais enfin, ça revient au même. Pour notre problème, on dit que cela n'avait pas lu le Zohar. Mais ils ont dit spontanément un peu ce à quoi les Midrash avaient dit. C'est pas vrai que là. C'est-à-dire, voilà, cette terre, c'est Eretz Moshe Boteret. Et ça, ce terme-là, c'est une sorte de qualification de Eretz Israël, mais très précise. Ça renvoie à l'identité d'Israël, qui est en Galoul pendant toute l'histoire du monde, mais qui a une Moshava quelque part que c'est à lui pour la Géoula, et ça, c'est cette terre qui est appelée Eretz Knaam, tant qu'il n'est pas là, c'est l'honneur qu'on fait à Knaam. Vous vous rappelez de ça? À condition que Knaam, au moment, et qu'il le sait, au moment où Israël revient, ouvre la porte. Ce qui n'a pas été tellement le cas. Okay? Mais ce qui a été le cas, a pris de KKL, de la Kéré, mais pas aimé, la Roland Mouda. Dans l'histoire que je vous ai racontée, ça s'est passé énormément de temps, ça continue d'ailleurs. C'était que tout le monde sait. Israël compris, mais dans tout le monde d'où Israël compris que c'est à Israël, on le rachète. Il n'y a ça jamais arrivé au monde. Vous avez vu, par exemple, les Européens arrivant en Amérique et acheter l'Amérique aux Indiens. Ils se sont débrouillés autrement. Vous allez me dire, mais les Européens ne sont pas originaires d'Amérique du Nord. Qui est-ce qui le sait? Ça, c'est votre migration. Aucun peuple au monde ne peut dire d'où il est. Il peut simplement dire où il est sur la terre qu'il a conquis en arrivant, mais d'où il vient personne. Donc c'est clair. Et là, c'est ce que dit le Mirage, aucun peuple au monde. Et là, qu'est-ce que je disais juste avant, simplement. C'est un verset très clair, les prophètes, ça dote un décès du canon. On rachètera les champs avec de l'argent. Notre jeunesse, les petits troncs de KKL, et on a racheté ces terres avec les petits sous du KKL. Vous vous rappelez de ça? Ça existe encore les troncs de blancs? Et alors, la fin du Midrash est très importante. Tu carré à être à Shimcha, puisque tu as ouvert la porte, la terre sera appelée de ton nom, et tu ne l'écha, et tu n'as pas qu'à Shimcha. Et je te donnerai une belle terre comme ça fait. Et de par la Canaan, puisque tu as achevé ta mission de gardiennage, tu as gardé du mot du Midrash. Une terre que tu as occupée par la force, la loi, par l'autre Midrash. On te comptera que tu as été le gardien du Dieu Saint, enfin le gardien du Dieu Saint, de la terre. Saint. Alors, ce Midrash, c'est utopique, idéaliste, gentil tellement et beau. Et alors, je te donnerai en récompense une terre belle comme la tienne, mais laquelle veut appliquer l'Afrique. Le commentaire dit, mais je vous dis, mon chat arrive, c'est-à-dire le chat est, on peut supposer, c'est à Cavana de Carthago, que l'intention. Le Midrash, c'est à Carthage, c'est-à-dire Tunis. Alors ça va faire plaisir au Tunis. Bon, l'explication du commentaire, je l'avais tout de suite. Vous savez très bien que dans ce pays, il y avait les comptoirs phéniciens. Et que ce sont les phéniciens qui ont conquis ce qu'on appelle aujourd'hui la Tunisie, mais qui s'appelait Carthage.